RMC.
PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, football show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Oh mon dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
Et Ludovic Obraniak et Ali Benarbia. On vous rappelle que ce soir, Strasbourg s'est imposé 1-0 face à Bordeaux, que Reims s'est allé gagner à Guingamp 1-0, que Dijon a battu Monaco 2-0, Nice aussi a battu Nîmes 2-0. On est avec Dante tout à l'heure, qui a disputé son 100e match de Ligue 1 avec les Aiglons et qui a annoncé, ça y est, il a trouvé un accord pour une prolongation avec l'OGC Nice, un an plus un an, visiblement. Il a dit au moins un an.
Ça fait deux ans.
Voilà. Il a dit un, voire une autre année. Et puis hier, Marseille s'est incliné à domicile en ouverture de cette 22e journée. Défaite 2-1 face au LOSC. Marseille qui compte 31 points. Marseille qui est 8e ce soir. Flo Germain est avec nous. Bonsoir, mon Flo.
Salut Nico.
Salut Flo.
Salut Ludo. Salut Ali. Salut, salut à tous.
Flo. Bon, Flo, ambiance tendue à Marseille.
Qu'est pas ça.
Ah bah hier, alors, on rappelle quand même le contexte du match hier. Bon, ok, il y a la défaite. Match interrompu pendant près de 3 quarts d'heure à cause de l'explosion d'une bombe agricole au bord de la pelouse. Et puis il y a eu cette exclusion également de Florian Thauvin un peu après l'heure de jeu. Et visiblement derrière, bah, il y a eu également un moment de tension dans le vestiaire de l'OM, Flo.
Exactement, alors c'est vrai qu'il y a parfois, enfin Ludo, Ali vous le confirmerez, des altercations hein, dans les vestiaires, ça arrive. Mais ça prend plus d'importance peut-être quand c'est un club comme l'OM, quand c'est une période de crise. Et quand c'est, voilà, quand c'est le coach principal et son meilleur buteur, hein, un leader de vestiaire. Donc ça a été le cas entre Garcia et Thauvin, je raconte un peu. Donc fin de match, là pour le coup Florian Thauvin est dans le vestiaire en train de ruminer son carton rouge qu'il trouve sévère, voilà, immérité. Et Rudy Garcia débarque sur les nerfs, il claque la porte et il voit Florian Thauvin et tout de suite s'en prend à lui en lui disant t'as pas le droit de nous faire ça, en gros t'as craqué, tu nous as mis dedans. Et là Thauvin il accepte pas du tout, déjà il vit un sentiment d'injustice, il estime, je trouve à raison que le rouge est un peu sévère, et il dit, voilà, il cesse pas faire, il se lève et il dit mais en oubliant le vouvoiement de rigueur, je tiens à le préciser parce que pour le coup, on vouvoie Rudy Garcia comme beaucoup de coachs, hein, il y a des codes un peu dans le football, on en parlait tout à l'heure à l'antenne, et en tout cas dans le vestiaire marseillais, on vouvoie Rudy Garcia, et là il le tutoie, qu'est-ce que tu me dis, je t'ai sauvé la mise tant de fois, et en gros tu viens me casser les... voilà. Bon, c'était très chaud. Rudy Garcia a eu l'intelligence derrière de pas trop répondre pour deux raisons. Un, il avait pas véritablement vu avec attention les images, peut-être de la faute de Thauvin. Donc vu le sentiment d'injustice ressenti par le joueur, il a dû se dire j'aurais peut-être pas dû l'accabler tout de suite. Et puis voilà, c'est pas trop le genre de Rudy Garcia de se prendre le bec devant tout le monde. Il y avait Jacques Henriero qui était là, il y avait tous les joueurs présents, donc ça le faisait pas trop. Puis c'est pas le moment de se prendre la tête avec un cadre du vestiaire. Tout est rentré dans l'ordre plus ou moins, en tout cas ce matin. Les infos que j'ai eues, c'est qu'il y a eu un décrassage, les deux hommes se sont expliqués. J'avais trouvé la veille Rudy Garcia très marqué. On est habitué aux confs de presse, des fois on est à l'affût de petits signes, Nico, Ludo, Ali. J'avais vu Ali, Rudy très très marqué, je le trouvais, voilà, les réponses étaient moins combatives, voilà, marqué, vexé. Et bah je comprends mieux pourquoi, c'était la conf de presse hier, 10 minutes après sa petite altercation avec Thauvin. Ce matin ils sont expliqués et visiblement les choses sont rentrées dans l'ordre.
Flo, pour toi, à la commanderie. Toi tu es mitigé sur le carton rouge.
Franchement, oui. Alors, j'ai commenté le match en plus. Hein. Dans le direct, je dis qu'est-ce qu'il fait ? Il a pété un plomb parce que on voit ce début de geste où t'as l'impression qu'il veut donner un coup de pied. Mais
bah,
mais finalement,
il veut donner un coup de pied.
Non, ouais, voilà.
Au départ.
Mais il se retient quand même.
Il
tape la pelouse avant de prendre le joueur. J'ai l'impression que c'est un peu sévère.
Tu sens,
moi.
Mais final, tu sens sur ça part sur un geste d'énervement.
Oui,
il part pour lui mettre une savate et il se
retient un peu.
Il se retient, mais le geste est là. Si tu veux dire,
oui,
l'arbitre, il est influencé par ça. Forcément, quand tu vas pour shooter dans un joueur,
c'est même pas le sujet, les mecs. J'ai envie de vous dire. Là, c'est les conséquences que ça a pu avoir.
Ce qui me fait rigoler maintenant, c'est qu'on va avoir des cartons rouges tous les deux minutes si ça continue.
Ah, mais excuse-moi, mais là,
parce qu'on a que ça en ce moment.
Non, mais attends, mais Ali, là, le ballon, il joue pas du tout le ballon sur ce coup-là.
Mais
qu'à la limite, on puisse dire il est sévère ou quoi, il n'est pas scandaleux non plus.
De l'anti-jeu, carton jaune, de l'anti-jeu. Et tu vas voir Thauvin, tu dis attention, là, monsieur Thauvin.
Mais ils sont les arbitres, quand ils viennent en début de saison te parler et donc t'expliquer les règles et tout ça, ils jugent beaucoup sur l'intentionnalité.
Oui.
Donc l'intentionnalité de Thauvin, à la base, elle est d'y aller et de foutre
un coup. Et l'intention.
Écoute, ça tombe.
Oui, mais après. Ouais, son intention, c'est de se retenir.
L'arbitre ne s'étant pas servi de la vidéo, nous on le revoit la vidéo. On peut se dire non, à vitesse réelle, honnêtement.
Mais si je revois pas le ralenti, honnêtement, je vous rassure.
Il y a un carton rouge, donc les gars dans le bus, ils ont dû revisionner les images. Hein, c'est protocole de toute façon. Donc
il a été confronté dans ses. L'arbitre va te dire carton rouge de toute façon.
Mais et du coup Flo, alors c'est rentré dans l'ordre alors l'histoire.
Oui, ce matin ils se sont vus, il y avait un décrassage à la commanderie, donc. Ils ont parlé. Rudy Garcia, lui est persuadé que son discours passe encore. Moi, nous, les infos qu'on a, et on en parle des fois sur RMC, c'est qu'il y a quelques joueurs qui ne reçoivent plus trop le message du coach. Mais là, pour le coup, Florian Thauvin, ça reste quelqu'un qui respecte Rudy Garcia. Dans le sens inverse, Rudy Garcia a besoin de son buteur et encense souvent Florian Thauvin. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce sont des grands garçons. Ils sont expliqués ce matin. Il y avait un décrassage à la Flo, ils ont parlé et a priori, l'épisode est clos.
Moi, la question que je te posais, le ressenti que tu as, c'est que je sens qu'il y a plus de connexion entre les joueurs à la perte de la balle avec le ballon. Ce qu'on retrouvait l'année dernière, mais on va pas revenir sur la saison dernière, je parle pas des résultats, mais je parle que 3-4 joueurs qui jouent ensemble, 4-5 joueurs qui défendent ensemble, et on dirait que tout le monde s'échappe un petit peu. Surtout quand ça va pas. Alors qu'en général, quand on dit qu'il y a des joueurs de caractère, c'est pour ça que moi, la saison dernière, je disais, c'est normal que tout aille bien, parce que les résultats suivaient. Donc tout le monde suit. Mais c'est quand ça va pas que tu vois s'il y a des leaders et des joueurs de caractère. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, sur le fond, cette équipe n'avait pas de leader ni de joueurs de caractère.
On le ressent, non mais c'est vrai qu'on le ressent. Après, c'est vrai que je trouve sur les 2-3 derniers matchs qu'il y a un petit peu, il y a un peu de mieux quand même dans le contenu, mais c'est pas suffisant. Là où je te rejoins, c'est que j'ai trouvé que ce groupe par moment manquait de caractère, voilà, manquait de leader tout simplement.
Chacun se regarde.
Avec beaucoup d'absence, c'est vrai hier, ça peut expliquer cela, mais j'ai l'impression depuis quelques semaines, franchement, qu'on a un groupe qui se rend compte que cette saison elle va être compliquée jusqu'au bout. Je dis pas qu'ils ont lâché parce que j'ai pas les éléments pour affirmer que ils ont lâché ou abandonné la saison ou lâché le coach comme on peut dire. C'est pas le cas pour moi, mais il y a des joueurs qui sont plus dedans et qui sont pas à 100%.
Ouais, mais est-ce que cet épisode là, cette altercation, alors même si l'explication ça peut fragiliser Rudy Garcia.
Écoute, faut pas trop se froisser avec Thauvin, parce que Thauvin, c'est au-delà d'être le meilleur buteur, un joueur important, c'est peut-être celui dans le vestiaire qui a le plus de soutien. Voilà, Flo Thauvin, il est pas pote avec tout le monde. Bon, il y a des petites tensions avec Payet, et encore, des fois, il se voit le week-end à droite à gauche. Voilà, Thauvin, c'est le copain des Sanson, des Lopez, des Steve Mandanda, c'est le grand frère des Minots du vestiaire. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de soutien, et c'est pas le bon joueur avec lequel se brouiller quand on est un petit peu comme ça dans le viseur de tout le monde pour Rudy Garcia. Donc, je pense qu'ils ont bien clos l'affaire. Je le disais tout à l'heure. Ils se sont expliqués, ça a été pour le coup franc et clair, donc a priori non, même si ça peut être une question, et là je suis pas dans leur tête, que peuvent se poser les dirigeants, je sais pas, Jacques Henriero était là, Franck McCourt aussi, le boss, avec une soirée de A à Z cauchemardesque, de loin la plus difficile depuis qu'il est propriétaire de l'OM, si lui a ces retours là, comme quoi ça s'engueule aussi dans le vestiaire, peut-être que peut à l'avenir y avoir des décisions, mais c'est pas la tendance ou les infos que j'ai eues aujourd'hui.
Flo, moi j'aimerais te poser une question, est-ce que tu sais tu en sais un peu plus sur ce qui était prévu, parce que bon, si on regarde un peu, si on se positionne avant le début du match, donc Marseille, si mes calculs sont pas mauvais, était à 9 points avant ce match, était à 9 points
là, ils sont à 12 là, oui.
Donc tu pars les 15 premières minutes. On peut quand même dire que les 15 premières minutes, l'OM est parti avec un esprit conquérant, en essayant d'aller de l'avant, d'imposer un pressing, d'étouffer son adversaire. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 15 minutes, après le but refusé,
il laisse venir.
Marseille, tout d'un coup, s'arrête, laisse venir, et a été inoffensif.
La peur.
Inoffensif jusqu'à l'entrée de Balotelli. Est-ce que Rudy Garcia, Rudy Garcia avait prévu de faire ça plus longtemps. Est-ce que les joueurs, à un moment donné, ont senti que sur une ou deux contre-attaques du LOSC, ils se sont sentis en difficulté, du coup tout le monde a reculé. Est-ce que tu as des infos là-dessus?
Moi, je crois que c'est surtout Lille.
Il y a deux éléments à Lille, Ludo. Il y a un manque de confiance qui est criant.
Ça, c'est sûr.
dès qu'il se passe quelque chose, on se recroqueville, on a peur et on recule.
Ah mais t'es cinq derrière.
Voilà. Et puis il y a un autre élément. Et pour le coup, là, Ludo, c'est peut-être Rudy Garcia qui a ces consignes-là. Je vais vous faire une petite confidence. Hier, j'ai surpris une discussion entre Christophe Galtier juste après la conf de presse après le match, hein, et un de ses vieux amis à Marseille. Il en a. Hein,
il a été surpris, Christophe. Ouais, voilà, c'est sûr.
J'ai pas compris ce qu'a fait Rudy. Oui. Mais en plus, avec de l'empathie, parce que on sait Christophe Galtier, bon, c'est quelqu'un qui aime malgré tout ce club. Bon,
ouais, mais à chaque fois qu'il vient à Marseille, est-ce que parce que Rudy, moi, je sens les 15 premières minutes. Moi, je le connais, je l'ai eu. Je sens que dans la causerie de départ, il y va. On y va, pressing. On n'a rien à perdre. On impose chaque truc. Fois, et j'ai l'impression que c'est les joueurs qui, à un moment donné, ont perdu le fil, se sont fait contrer une ou deux fois, se sont mis dans une posture où ils ont, dans la posture actuelle, manque de confiance sur le reculoir. Et Et c'est là aussi peut-être que Rudy a perdu un peu la main sur le fait que il les a vus reculer et puis il a rien réussi à changer.
Non, mais la force de Lille, c'est quoi? Même s'ils se font bouger pendant 15 minutes, leur force, c'est qu'à n'importe quel moment, eux, ils ont la fluidité pour les contres. Ouais. Et quand t'es Marseille en ce moment, que tu domines un petit peu le 15 premières minutes et que tu vois deux flèches partir, qu'est-ce que tu dis?
Oui, mais tu te dis, oh, regarde Ali, tu te dis, à la limite, regarde, t'as fait ce que t'avais à faire, après t'as joué plus défensif, plus sécurité.
Mais c'est pas ça que tu t'es dit, je vais me le prendre.
Au final, le match, tu l'as perdu quand même.
Non, mais tu ne sais pas que tu vas le perdre. Je veux dire par là, c'est que face aux Lillois, c'est pas Strasbourg ou quoi, tu te dis, si on continue à jouer comme ça, on joue le jeu de Lille.
Mais tu sais que tu vas jouer le jeu de Lille. Lille, ils jouent comme ça, tu le sais qu'ils vont jouer comme ça. Christophe Galtier.
Mais quand tu es pas bien, tu ne veux pas prendre ce but-là.
Mais tu veux pas prendre ce but-là, qu'est-ce que t'as à perdre? T'es déjà à 9 points. Tu sais que si tu le gagnes pas le match, t'as quasiment aucune chance de revenir.
Mets-toi à la place des joueurs de l'OM qui sont devant leurs supporters. Tu t'es dit, j'ai rien à perdre, mais ça va pas, il faut qu'ils gagnent absolument.
Avec Mitroglou devant, si tu te dis que tu décides de jouer de position basse, d'essayer de tromper Lille avec Mitroglou devant, t'as d'autant moins de chances.
Il y a une petite question également de Football Expat là sur l'hashtag RMC Live qui pose une question à Ludo et Ali. Est-ce que vous vous tutoyez vos coachs à l'époque?
Non.
Mais toujours vous?
Toujours.
Jamais. Vous les appelez comment d'ailleurs?
Coach
toujours.
Coach vous, c'est très
Mister.
Classique.
Ouais, coach.
Et tout Mister. À l'heure, on a une petite prise de bec gentille avec Stéphane Brun et
Denis Charvet.
Ouais, voilà, et Denis Charvet.
C'est ce qui tombe d'ailleurs.
Il y avait coach aussi. Non, et c'est vrai que j'ai été surpris moi de mon côté que ce soit pas un code un peu plus élargi à d'autres sports. Et c'est vrai qu'en foot, c'est assez classique de dire. Mais après, c'est pas une relation. C'est pas parce qu'on vous voit que on a une relation très lointaine et qu'on n'est pas capable de se taper dans la main, mais simplement il y a cette petite marque de respect et perso que je trouve assez logique, parce que dans un vestiaire, et vous êtes mieux placé que moi pour le dire, dans un vestiaire où on doit se dire les choses comme le mot expression, si en plus il y a le tutoiement derrière, ça part en live. Hein.
Non, mais
donc
par
le
contre...
vouvoiement permet de laisser une petite barrière qui permet au coach de, quand même d'asseoir une autorité, c'est logique.
Par contre, Flo, avec l'âge, des fois, quand t'es un joueur d'expérience...
Oui, mais il y a des exceptions. Voilà.
C'était le cas de Mourinho à Porto d'ailleurs. Il y a des joueurs qu'il avait connus avant qui le tutoyaient dans le vestiaire.
Regarde, et Libop. Parce que moi, j'arrive à Bordeaux, j'ai 31 ans. C'était, je dis pas comme un copain, parce que c'était notre coach, tu vois. Mais je le voyais pas. Du tout.
Ça se passe peut-être dans l'intimité, peut-être, tu sais, des fois, quand t'es dans le bureau, seul à seul, il se peut que des fois, il y a des coachs qui aient...
Il y a une intimité.
Une intimité, mais devant le groupe... Honnêtement, dans tous les clubs que j'ai fait, ça m'est jamais arrivé.
C'est vrai que Domenech avait expliqué d'ailleurs lors de cette fameuse altercation avec Anelka en Afrique du Sud, que ce qu'il avait l'avait plus vexé, puisque les mots qu'on avait lus dans la maison de l'équipe, c'était le tutoiement justement.
Ah, voilà. Il avait dit, c'est même pas ce qu'il a dit. Nico, ouais. Quand il y a eu en 2011-2012 une altercation à Gignac-Deschamps, j'avais bossé sur le truc et voilà, ce qu'avait pas apprécié du tout Didier Deschamps, c'est que André Pierre Gignac se retourne devant tout le monde et lui dit qu'est-ce que tu me prends la tête ou quelque chose comme ça. C'est le tutoiement qui casse une barrière et comme le dit Ludo, il y a des fois des exceptions et sûrement dans l'intimité d'un bureau ou peut-être un petit repas parfois, mais quand t'es devant tout le groupe, voilà, c'est un peu un affront
et surtout dans la situation actuelle.
Voilà, en plus parce que
ça, en Angleterre t'es tranquille, le you.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Est-ce que mon président d'ailleurs pas le tuer. On te libère, mon Flo?
Bah, avec plaisir.
Et ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ces infos.
T'as du boulot, Flo.
Ouais, c'est ça.
Juste, Flo, une question. Est-ce que les propos de Thauvin risquent de jouer contre lui, dans le tunnel?
Je pense pas. Dans le tunnel, c'est-à-dire?
Bande de clochards.
Ah oui, pardon, j'avais pas suivi.
À qui, à l'arbitre?
Je sais pas. Les gens qui surveillent la VAR, c'est des arbitres.
Quand il revient après l'exclusion, ouais. C'est vrai que les caméras, je crois, de Canal, captent cette phrase. Ouais. La VAR, c'est quand ça les arrange, bande de clochards.
La question, Flo.
Je sais pas quoi te dire, franchement.
Moi, j'ai connu pire comme insulte.
Juste vite fait.
Je suis pas sûr.
Qu'est-ce que dit, si on peut le savoir, à l'arbitre Florian Thauvin pour qu'il le sorte le rouge, parce qu'il discute avec lui avant de sortir le rouge.
Mais je pense que c'est le geste.
Non, mais je crois que le rouge, il a pas de lien par rapport à ce que peut lui dire Florian Thauvin. Hein. Je crois que sa décision, elle est prise d'entrée. En fait, ce qui se passe, c'est que Monsieur Delerue rapidement met la main à la poche arrière, au niveau de la poche arrière. Donc, on sait tous que ça va être le rouge, parce qu'en plus, il y a eu pas mal de cartons jaunes dans ce match. Donc, on l'a pas vu mettre la main au niveau de la poche arrière. Donc, Thauvin se rend compte tout de suite que ça va être la sanction ultime, le rouge. Et donc, je crois qu'en 4-5 secondes, il essaye de l'en dissuader. Mais je sais pas les mots qu'il a eu. Mais c'est sûrement pour lui expliquer que c'était un geste malencontreux et qu'il a voulu se retenir, en fait.
Flo, merci d'avoir été avec nous.
Je vous embrasse, à bientôt.
Bonne soirée.
Ciao, Flo.
On accueille Damien, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien.
Bonsoir à tous.
Salut Damien.
Bon alors Damien, il y a quand même une lueur d'espoir dans tout ça, parce qu'on en a pas parlé ce soir, on en a beaucoup parlé hier, mais c'est quand même ce premier but de Balotelli avec Marseille, hein. Premier match, premier but. Il avait pas encore marqué avec Nice cette saison. On a eu Dan tout à l'heure qui en parlait aussi, le capitaine des Aiglons. Comment tu l'as vécu ce match, toi, hier, Damien?
Je l'ai vécu dans le sens où le match, déjà d'une, c'était dans une atmosphère très compliquée, avec beaucoup de banderoles, beaucoup de chants envers Franck McCourt, envers Jacques Henriot, envers Rudy Garcia et les joueurs. Il y a eu beaucoup de chants, beaucoup de banderoles. Et quand Mario Balotelli est parti à l'échauffement pour avoir été au stade, on a senti quand même le Vélodrome soutenir Mario Balotelli dans son échauffement. On a vu qu'il était vraiment attendu. Quand il est entré, on a eu quand même une lueur d'espoir, comme tu le disais tout à l'heure, Nico. Et ensuite, quand il est rentré sur le terrain, je ne sais pas pour vous, au vu du terrain ou au vu de la télé, si vous avez vu que les joueurs sur le terrain de l'Olympique de Marseille ont pris une autre dimension. On sentait qu'ils voulaient jouer pour Mario Balotelli, ce qui n'était pas le cas pour Mitroglou, pour Valenciennes, qui est Donnelly précédemment. Et dans le Vélodrome, on a entendu quelques applaudissements pour Mario Balotelli, quelques encouragements qu'on n'entendait pas de toute la partie jusqu'à cette entrée de Mario Balotelli. Donc c'est une lueur d'espoir, premier but. J'espère que ça sera la confirmation pour le match face à Reims et notamment à domicile face à Bordeaux. Mais c'est le seul point positif de la soirée. Et notamment Radonjić également, on peut en parler, qui a fait quand même de très bonnes choses sur le côté, avec de la vitesse, de la qualité technique, malgré quelques choix des fois un peu mauvais. Mais c'est les deux seuls joueurs qui sortent du lot de la soirée. Voilà.
Ouais. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Damien, les mecs?
On peut être plus ou moins d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est pas la panacée du côté de Marseille, mais il y a quand même quelques petits signes.
Il a parlé de lueur d'espoir d'ailleurs, Rudy Garcia à la fin du match.
Il y a quelques petits signes qui peuvent te donner satisfaction. Tu te dis, bon, l'entrée de Balotelli, qui a fait plus en 20 minutes que peut-être les deux autres sur la première moitié la première moitié de saison. Bon, alors après Balotelli, moi je suis toujours aussi sceptique autour de ce garçon, mais force est de constater qu'il a pesé, qu'il a amené quelque chose, que ses coéquipiers, les coéquipiers, comme tu le dis, autour de lui, ont été bien meilleurs. J'ai bien aimé l'association Lopez-Strootman, qui n'ont pas forcément été mis en valeur offensivement, mais qui ont couvert un terrain incroyable et qui ont été plutôt complémentaires. Luis Gustavo derrière, je pense et je persiste, ce n'est pas une solution. Il faut le réintégrer au milieu de terrain, peut-être avec Strootman et Maxi Lopez, peut-être. Mais derrière, il est toujours avec un temps, il est soit avec un temps d'avance, soit avec un temps de retard. Comme le numéro 6 a tendance à anticiper les passes, ou alors soit il est en retard comme sur le tacle.
Et il ne doit pas tacler. C'est pas un défenseur.
Il maîtrise pas son tac.
C'est pas un défenseur. Ouais. Il aurait dû défendre comme un milieu terrain.
Et tu le sais, pour un milieu terrain, c'est déjà très difficile de défendre à 4.
Exactement.
Mais de défendre à 5, c'est encore plus dur parce que tu dois gérer les alignements, sachant que tes latéraux sont toujours un cran plus haut. Et quand tu subis tes latéraux, tes 5 alignés, donc pour gérer la hauteur du bloc, c'est jamais évident. Et on sent que Luis Gustavo, justement, dans ces moments-là, eh ben, il serait plus utile un cran plus haut.
Merci Damien d'avoir été nous dans quelques instants. On sera avec Simone Rovira, on ira en Italie. Il y avait un choc ce soir entre Milan et le Napoli, il y a eu 0-0 hein. D'ailleurs sachez-le, du coup il va nous raconter tous les buts Simone dans quelques instants. Puis on sera avec Fred Hermel aussi, ça joue également en Espagne, pas mal de spectacles là aussi en Espagne. Et tiens, parce que je sais que ça vous intéresse, vous étiez comme des oufs, qui a gagné la séance de tir au but dans la finale de la Coupe de la Ligue au Portugal entre Rio et Ave?
C'est Porto.
Allez. Et ben non, c'est le Sporting. Ah. Et ouais, c'est le Sporting qui a remporté la Coupe de la Ligue au Portugal. À tout de suite avec le Braniac qui arrive à l'arrière.
Tu dois être vraiment déçu.
Il est con.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné d'Ali Benarbia, de Ludovico Braniac et de Simone Rovira qui nous a rejoint. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Comment va?
Tutto bene, grazie.
Alors, on va parler de la Serie A dans quelques instants.
Pourquoi dans quelques instants et pas tout de suite?
Parce que d'abord, il y a les infos du jour, mon poulet. Mais on voulait que tu assistes à ça.
Et puis, et puis ça n'a pas été si intéressant que ça, ça a été un 0-0.
Alors, il va nous dire ça dans quelques instants.
Restez beaucoup plus calme, là.
La menace. La menace.
Minaccia.
Parce que Piontek,
c'est
bon.
Très bon, pour ceux qui l'ont joué.
C'est-à-dire, pas longtemps, c'est ça?
20 minutes.
20 minutes?
Ouais.
Mais Balotelli marque en 20 minutes, mon pote.
Ouais.
Ah ouais, bah ouais.
T'as raison. Mais Balotelli, c'est
suffit pour la squadra, là. On peut le réintégrer.
Piontek, on peut pas les prendre dans la squadra. Mais il est polonais, donc voilà, il a une bonne sélection où il joue.
Alors demain soir, vous savez que le Paris Saint-Germain va recevoir Rennes. Alors des news de Neymar, qui avait été blessé lors du match face à Strasbourg, qui ont été données aujourd'hui par Thomas Tuchel en conf de presse. L'entraîneur du PSG qui expliquait que le Brésilien avait commencé les soins, mais qu'il fallait attendre encore cette semaine pour évaluer le temps de récupération. Tuchel, vous allez l'écouter, qui était triste, voire alarmiste.
Et avec Ney, mais oui, nous sommes tristes. Ney est triste, je suis triste. La situation est... horrible, c'est clair. Après Marco, maintenant avec Ney, ce sont des joueurs clés. Ce sont pas des joueurs, ce sont des joueurs avec des qualités énormes et des qualités extraordinaires. Il nous manque énormément. Et à la même temps, c'est notre défi de trouver des solutions.
Voilà, et donc il dit c'est horrible hein, Thomas Tuchel. C'est vrai qu'il approche hein, ce match face à Manchester United, le match aller, 8e aller de Ligue des Champions, ce sera le 12 février. Et donc pas de Verratti, peut-être pas de Neymar non plus. Je vous donne quelques petites infos hier qui sont sur
Verratti a repris l'entraînement, j'ai entendu.
Ouais, mais il est pas ouais.
Oui, donc c'est déjà bien.
Je donne également quelques petites infos. Il y a eu le tirage au sort de la phase de groupe de la prochaine Copa América. Alors ce sera du 14 juin au 7 juillet prochain, ce sera au Brésil. Dans le groupe A, on aura le Brésil, la Bolivie, le Venezuela et le Pérou. Dans le groupe B, on aura l'Argentine, la Colombie, le Paraguay et le Qatar qui est invité cette année à la Copa América. Dans le groupe C, on aura l'Uruguay, l'Équateur, le Japon qui est invité également et le Chili. Quart de finale de la Coupe d'Asie des Nations également. Demi-finale. Alors, voilà, il y en aura Iran-Japon le 28 et Qatar-Émirats Arabes Unis le 29. Sur qui va être un match sur fond de géopolitique assez tendu hein, d'ailleurs.
Ah, surtout que le Qatar a éliminé la Corée du Sud.
Oui.
Qui était l'année favori.
C'est quoi ton temps,
ton micro n'est les Émirats. En fait, t'appuies sur le mauvais bouton depuis tout à l'heure. En fait, ton bouton c'est l'autre là-bas. Et que tout à l'heure Alban te l'allume et tu l'éteins. Voilà, merci Alban.
Et que les Émiratis ont éliminé les Australiens qui étaient aussi favoris.
Oui.
Donc ce qui est une bonne chose, c'est qu'on va avoir une demi-finale Qatar Émiratis. Qui va être
Iran-Japon également.
Très 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 bon match.
Et d'ailleurs conséquence, voilà. Hein, parmi les nations éliminées, il y a eu également déjà du turnover sur les bancs, puisque Sven-Goran Eriksson, qui était venu juste pour la Coupe d'Asie des Nations, il a fait ses 3 matchs avec les Philippines, il a fait 3 défaites, il s'est barré. Mm-hmm. Et puis Lippi, qui était depuis un peu plus longtemps lui en Chine, est parti également.
En même temps, Sven-Goran.
Il a dit qu'il a jamais fait une Euro en tant que sélectionneur, et donc l'Euro 2020.
Pourquoi avec l'Italie?
Donc, il a fait la Coupe du Monde avec l'Italie. Donc, non, il a dit qu'il peut, pourquoi pas, une sélection...
Mais on en parle en Italie ou pas?
Non, pas pour l'Italie, mais peut-être une petite sélection. Tu sais, l'Euro aujourd'hui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'équipes qui arrivent.
Il était en Chine depuis 2016. Hein.
Et les Émirats, c'est entraîné par Zaccheroni, qui a déjà gagné la Coupe d'Asie en 2011, si je ne me trompe pas, avec les Japon.
Ah oui.
Donc, grosse performance de l'équipe d'Alberto Zaccheroni.
Une petite info mercato également, et comme ça on va ouvrir véritablement cette page italienne. Cédric Suarez qui a quitté Southampton, qui est prêté à l'Inter. Alors on n'a pas trop de détails, a priori c'est un prêt avec option d'achat, c'est ça?
500 000 euros de prêt jusqu'à la fin de la saison, 11 millions d'options d'achat en juin. Il y a beaucoup de soucis concernant la santé, l'état de forme de Versalico. Qui ne devrait pas, qui a une option, l'Inter, qui devrait lever à 17 millions et demi, qui n'a pas fait une saison pour l'instant satisfaisante, et l'Inter ne devrait pas acheter à la fin de la saison, donc Cédric Suarez va jouer quand même, une belle option, parce que si ça passe bien, elle pourrait être achetée à la fin de la saison.
Il y a beaucoup de joueurs de la Croatie, avec la Coupe du Monde qu'ils ont fait, hein, qui sont cette année sur les rotules.
Ouais. 21e journée de Serie A qui a débuté aujourd'hui. Sassuolo qui a tapé Cagliari 3-0. Victoire de la Samp 4-0 avec l'Udinese. Avec un Quagliarella qui a encore marqué. On va y revenir dans quelques instants aussi. Et puis, il y avait le choc ce soir entre Milan et le Napoli. Alors, il chambrait un peu Ludo. Il n'a pas vu le match, hein. Il était avec nous. Il y a eu 0-0. Il était comment ce match? Est-ce que c'était un bon 0-0?
Est-ce qu'il y a des très bons 0-0?
Il y a des bons 0-0 pour ceux qui aiment certaines choses. Là, c'était pas...
ceux qui aiment quoi, alors?
Ceux qui aiment les batailles tactiques, qui aiment voir un peu comment Gattuso a préparé les terrains pour la venue d'Ancelotti. C'était un gros duel, on peut dire, sur les bancs de touche, parce qu'il y a une relation énorme, tout le monde le connaît, entre Gattuso et Ancelotti. C'est un peu les maîtres à l'élève. Et Gattuso vraiment a préparé un match qui a rendu la vie compliquée au Naples pour une heure, où Milan défendait bien et il avait des bonnes occasions en contre. Après, la dernière demi-heure, on a vu une fraîcheur majeure du Napoli à niveau physique, à niveau mental, des solutions sur le banc qui sont meilleures en rapport à celles du Milan, et donc Naples a vraiment eu des belles occasions pour gagner ce match à la fin dans les dernières 90 minutes. Il faut donner une note supérieure entre tous les joueurs sur le terrain à Gianluigi Donnarumma quand même, qui a fait en sorte que Milan a gardé ses points, pas très important mais quand même important vu que Milan lutte pour la quatrième place. C'était pas beau. Mais il y a des 0-0 beaucoup plus chiants. Ça, c'est très simple à dire. Je vais vous parler de certaines individualités avant de vous laisser commenter. Très très mal, je trouve Kessi, qui est en période de, à niveau physique, des positions, il est plus, vraiment plus l'homme fort de ces milieux de terrain. Par contre, Milan retrouve toujours plus, et match après match, une Bakayoko, patron de milieu de terrain. On dirait qu'aujourd'hui Bakayoko est l'homme en plus, comme c'était Kessié la saison dernière. Côté Naples, il y a eu beaucoup les meilleures occasions de servir sur les pieds des Zielinski, qui les a ratés. Match terminé à 10 pour les rouges de Fabien Ruiz, pour un deuxième jaune qui ne devait pas être sorti. Et sur cette occasion, c'était déjà la fin de match, même Carlo Ancelotti était invité à quitter la pelouse. Donc on peut dire que Naples, encore une fois, n'a pas une fin de match très chanceuse à San Siro.
Alors, on rappelle quand même que la Serie A, elle est un peu bizarre, entre guillemets, après 21 journées. Alors, tout le monde n'a pas joué encore. La Juve qui jouera demain, alors à la Rome face à la Lazio d'ailleurs. Alors, ils sont loin devant. La Juve est devant le Napoli, ouais, qui est toujours deuxième. Et le Napoli a 8 points d'avance encore sur l'Inter, qui n'a pas encore joué, qui ira à Turin demain jouer face au Toro.
Oui, la journée de demain, c'est très intéressant, voire extraordinaire, parce que il y a des matchs des hauts niveaux, des hauts tableaux. Atalanta-Roma, Lazio-Juve, et l'Inter qui va jouer face au Torino. Donc, quand même ces petits points de match nul pour Milan et pour Naples n'est pas si négatif. La Juve quand même qui a toujours...
Enfin, Milan, ils peuvent voir la Roma passer devant quand même, hein, et sortir de la quatrième place, qui est qualificatif pour la Champions. Hein.
Oui, mais les matchs...
C'était le Napoli, quoi, c'est ça?
Ouais, mais c'était le Napoli, le match à Bergen face à l'Atalanta, c'est pas si simple, donc même la Lazio pourrait passer devant, donc mais joue face à la Juve, donc au final, pour les chemins croisés du calendrier, pour Milan, c'est pas une si mauvaise opération. Et surtout que on a vu en fin de match, comme j'ai dit, dans la difficulté, mais avec un Piontek en plus, dès qu'il est rentré sur le terrain, l'attaquant polonais a montré qu'à niveau d'impact et des situations dangereuses, il peut faire beaucoup plus que Coutronet.
Tu connais un peu, toi, Piontek?
Je l'ai pas connu.
Ludo?
Je l'ai pas
connu. T'as pas joué avec lui en sélection polonaise?
Il est passé, au travers du filet, lorsque j'étais là, mais c'est vrai qu'il a éclos comme ça sur le tard, mais il y a des joueurs comme ça qui, en une saison, arrivent à changer leur destin, mais tu sais, bon. 22 ans, quand tu vois les talents aujourd'hui, quel âge ils ont, et ils sont tous brillants déjà des 18, 19 ans. Mmh. 22 ans, ça paraît déjà, pour l'éclosion d'un joueur qui est dans le circuit depuis un moment, ça paraît déjà presque tard, mais... Il y a des joueurs comme ça qui se révèlent parce qu'ils ont besoin d'un club spécifique, d'un entraîneur qui va les révéler. Et il a trouvé ce qu'il fallait dans le club où il était précédemment. Et je sais pas, c'est un vrai point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'un joueur de son calibre dans un club moyen, on peut dire moyen plus, est-ce qu'il est capable de performer dans un club tel que l'AC Milan et de succéder quand même à Gonzalo Higuain, ce qui n'est pas rien. Point d'interrogation, mais
Higuain a été plutôt rien qu'autre chose dans son passage milanais. Ça a été aujourd'hui, donc
alors que ça devait être le fer de lance du projet du renouveau.
Tiens, les gars, on va accueillir Flavien, qui est supporter du Napoli, qui nous a appelé au 32-16. Salut Flavien.
Bonjour tout le monde.
Salut Flavien.
Alors Flavien, on était en train de faire la carte postale, l'état des lieux du Napoli. Bah finalement, ils sont peinards deuxième au classement. Mais toi, tu te poses quelques questions par rapport à la politique de ton club, c'est ça?
Oui, c'est un peu toujours la même depuis, je dirais, 4 saisons. C'est toujours la course après la Juve, mais on les accroche jamais. Et j'ai l'impression que ça se répète, quoi. Depuis 4 saisons, j'ai l'impression de vivre tout le temps la même situation. Bon, là, on fait encore un plus mauvais départ que l'année dernière, parce que la même année, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait moins d'écart. Là, il y a encore un énorme écart, donc je pense que c'est déjà réglé pour la première place d'entrée, parce que la Juventus, s'il lâche 2 matchs jusqu'à la fin de saison, ça sera déjà énorme. Nous, on en lâchera sûrement beaucoup plus. Donc après, bon, ils seront qualifiés sûrement pour la Ligue des Champions, Naples, mais bon, c'est toujours la même chose. C'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça.
Bah, c'est vrai que c'est le Napoli et la Juve, c'est deux mondes différents, Simone. C'est deux réalités différentes.
Tout à fait. Et puis là, sûrement que cet été, on va prendre un peu cher, je pense, sur les joueurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir, je pense. Ils vont se faire acheter à prix d'or, donc le président, il va les lâcher. Donc ça va être un peu, la saison prochaine, elle va être encore un peu compliquée, je pense, pour essayer d'aller chercher, accrocher la Juventus.
Oui, mais c'est pour ça que Carlo Ancelotti mise beaucoup sur l'Europa League. On va voir cette semaine, il y a aussi un quart de finale très intéressant en Coupe d'Italie à Milan, encore face au Milan. Donc l'idée de Carlo Ancelotti, c'est de dire peut-être on ne peut pas rivaliser avec la Juve, mais on peut faire des choses, on peut gagner des titres. Et la chose importante, c'est quand même de s'affirmer sur la scène européenne et comme un club à très haut potentiel, et sur la scène italienne comme le numéro 2 derrière la Juve.
Bien sûr, après moi j'adore la ligne d'attaque, les petits là qui courent très vite et tout ça, qui donnent beaucoup de jeux, mais depuis 4 saisons ça fait un peu pareil, on arrive sur les grandes dates, si on va loin dans une coupe, ça s'essouffle un peu, et en championnat, on laisse beaucoup de matchs, et même après en coupe, on laisse des matchs bêtes, quoi. L'année dernière, on doit jamais perdre, on perd bêtement, ça se répète depuis 4 années, c'est un peu le même truc, alors peut-être cette année ça va aller plus loin en coupe, mais... Moi, je vois tout le temps un peu le même scénario qui se répète. Après, ils me font toujours plaisir à regarder. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que pour voir plus loin, je trouve compliqué. Mais voilà. Désolé, j'ai le chat qui miaule en même temps.
Qu'est-ce qu'il veut alors? Comment il s'appelle ton... Ah, toi aussi, t'as un chat. Ça, c'est un truc de supporter italien, ça. Comment il s'appelle ton chat?
Lorenzo.
Sans déconner.
Sans déconner, Nico. C'est pour ça qu'il n'est pas content que je dise du mal. Il râle.
Écoute, on donnera ton numéro à Simone Rovera en antenne. Voilà, il y a un truc qui se passe avec les chats. Il y a une connexion.
On peut jouer les chats ensemble.
C'est comme ça. Hein. De toute façon, on ne peut rien y faire. Après, il y a un conflit toujours pareil. L'argent qui règle tout. La Juventus, c'est un autre moteur. C'est comme ça.
Merci beaucoup, Flavien. Bonne soirée à toi. Bisous à Lorenzo.
Des choses à dire.
Bonne soirée à toi.
Ciao, Flavien.
Des choses à dire, une très importante, j'ai regardé les matchs à la maison avec les deux chats derrière moi.
Avec
Perry et Hagrid.
Ah, à chaque fois j'oublie,
c'est moche comme ça. Non, par rapport à du Naples, très bon match de Kevin Malcuit, qui je trouve qu'est en train de s'imposer sur cette place de latéral droit. On sait très bien qu'il y a aussi des soucis concernant Isai, qui voudrait partir, que était une des chouchous de Sarri. C'est pas la même chose avec Carlo Ancelotti, qui en Ligue des Champions a utilisé Maximovic à droite, mais en championnat, il commence toujours plus à mettre Kevin Malcuit en avance, qui a fait un très bon match ce soir.
Un mot également sur Quagliarella. Alors, la Samp s'est imposé 4-0 face à l'Udinese. Il a claqué un doublé. Il est meilleur buteur de Serie A. Ouais. Et surtout, il a tapé un record aujourd'hui, Quagliarella.
Oui, un record historique. Je pense que quelqu'un va verser des petites larmes parce qu'il a rejoint Gabriel Omar Batistuta dans une série des 11 matchs consécutifs avec au moins un but marqué en Serie A. Voilà, Batistuta l'avait fait ça en 84-95. Quagliarella y arrive cette
94-95. 94-95.
Sinon,
le mec, il est fort.
10
ans, putain.
Mais qui marque 11 ans à chaque fois.
Imagine, 11 buts en 11 ans, c'était un peu nul. Quagliarella arrive ce soir avec à quelques jours de son 36e anniversaire. Ça montre que si tu as une qualité, si tu as l'envie, tu peux continuer à jouer. Ouais, il y a des gens qui à 34 ans ne jouent plus, non?
Font le commentaire. Ouais, c'est vrai.
Bon,
le rythme du championnat italien.
Mais Calama, tu veux venir, de moi. Si tu veux,
ouais, je te prends. On était en négociation, non? Tu m'avais trouvé un point de chute, non?
Mais ça n'a pas marché.
Franchement, il a niveau pour jouer où, Ludo, tu penses encore? À 34 ans,
fais attention à ce que tu fais.
Ouais, je regarde le classement. Tu dans un club comme Bologne avec
Pipilla. Bien sûr.
Non,
j'ai pas eu la chance.
Et t'as trouvé un club, c'était finito.
Et Frosinone et tout ça, c'est bien, non?
Frosinone, c'est dernière de classement. Moi,
non, avant-dernier.
C'est avant-dernier.
Ah oui, ils sont à la rue, ils ont 17 points de retard sur Empoli.
Je pense que toi, t'as les niveaux pour quelque chose de plus.
Vas-y, c'est toi qui as les contacts.
Ah, le Mino Raiola, voilà, du pauvre. Ouais.
Non, mais parce que là, l'histoire belle à raconter, c'est Quagliarella qui vraiment vit une deuxième jeunesse. C'est pas seulement parce que, bon, il faut tirer les pénaltys. Aujourd'hui, il en a mis deux, mais dans les jeux, il a fait une passe décisive pour Gabbiadini. On voit vraiment qu'il est au 100% concentré dans sa fin de carrière. Il veut continuer à profiter. On lui a demandé, parce qu'ils ont lâché un hashtag en Italie sur le fait que Quagliarella doit être à l'Euro 2020. Et quand on lui pose la question, il dit, mais moi, je pense, moi, arriver dimanche prochain et jouer, et j'ai jamais pensé de pouvoir faire en série des buts. Il avait les larmes aux yeux à la fin du match quand on lui parlait de Batistuta. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui prend encore du plaisir. Et on l'a vu en Italie dans les dernières saisons. Toni, Totti, ça arrive que des joueurs ont encore de l'expérience et l'envie de continuer.
Est-ce qu'on peut considérer, blague à part, mais que l'Italie reste quasiment le seul pays où on considère, enfin, le pays du top européen où on considère que l'âge peut être une plus-value,
ou pas un handicap, parce que des fois c'est un délit de sale gueule aussi. Enfin, il y a une.
Bah alors.
J'ai même moins l'impression qu'en Italie on est moins sur ce système. Catalogué. Alors c'est une vision. Hein, je connais moins.
Mais j'ai l'impression qu'en France,
on est moins sur ce système de trading de jeunes qu'il faut former.
Les jeunes, c'est nécessaire au niveau de
financier.
Et c'est un championnat différent de la France qui lance beaucoup de jeunes et qui a 20 ans, 22 ans vont essayer une nouvelle aventure en Angleterre, en Espagne, parfois en Italie, quand ça peut arriver, même plus jeune. Et il y a un vrai plus-value d'avoir des attaquants d'expérience dans chaque effectif des Serie A.
Grazie mille, Simone.
Prego.
Ciao. Tu t'en vas? Tu veux rester? Il y a Fred qui est là dans quelques
l'information en ce moment à Lille. Départ de Benatia qui va quitter la Juve pour aller jouer au Qatar.
Il va être entraîné par Rui Faria, ancien adjouant de José Mourinho.
Mais où?
Deuxième, Aldouaï. Le deuxième, derrière Al-Sadd. Oui.
Pas à Monaco.
Non, pourquoi derrière Al-Sadd?
Al-Sadd est leader.
Ah, c'est Al-Sadd qui est leader maintenant. Parce qu'en général, c'était toujours du Hale.
Ah, mais là, cette saison, Al-Sadd, ils sont bien partis pour être champions.
Pareil, Simonet, pour un club français, Benatia, c'était injouable ou pas, Sylvain?
5 millions net par an de salaire, c'était injouable, je pense, sur ça. Ouais.
Il aurait pas pu, lui, accepter une...
Tu veux pas qu'on y aille, toi, en fait? On a la bourre déjà, mais...
Ouais, mais je me renseigne.
Non, mais tu as raison, parce que...
Quand même, la Juve encaisse 10 millions dans l'opération. C'est pas énorme, les transferts, mais...
Ouais, faut assumer le salaire, derrière.
Combien d'années?
Je pense 3, mais je suis pas sûr sur le monde.
On peut y aller, Ludo, ou pas?
Si tu veux, vas-y.
Allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, Ludovico Bragnac, Simone Rovera, et il nous rejoint. Il est de bonne humeur, il est souriant, il est beau, il a le soleil dans la voix, mais je pense pas qu'il l'ait sur la tête en ce moment. Fred Hermel.
Ah, le soleil d'hiver madrilène est quand même assez sympathique.
Ouais, t'as du soleil en ce moment à Madrid là?
Ouais.
C'est vrai?
Oh, Madrid, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau.
C'est très froid.
C'est mon moment préféré à Madrid. Tu sais, quand l'après-midi, tu vois, au mois de février, tu as peut-être 4-5 degrés, mais il y a le soleil qui chauffe.
Et qu'est-ce que tu ferais pas pour dire du bien de Madrid, quand même? Sans
déconner. Oh, tu sais, mon ami, et hola, chicos,
le nombre de joueurs étrangers. On a eu de la neige, mon frère.
Le nombre de joueurs étrangers qui passent par Madrid et qui vivent ici. Bah, notre ami Greg Coupé, par exemple. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait quand il a terminé sa carrière? Il est venu revivre à Madrid. Bon, aujourd'hui, on sait où il est. On sait qu'il a, pour des raisons professionnelles, ouais, il est reparti à Lyon. Mais voilà. Et comme lui, des joueurs, je sais pas, comme Mijatovic, Ronaldo Nazario, voilà. Enfin, c'est une ville qui est magnifique, pas uniquement à cause du football.
Moi, j'étais en terrasse, je bronzais, mais il faisait 15 degrés.
Mais t'étais pas à Madrid.
Où?
Chez lui.
Chez moi.
Avec une lampe, là.
Non, non, le pire, c'est qu'il était vraiment... Enfin, t'as eu 15 degrés, toi, cette semaine, toi, chez toi.
Degrés, ouais.
Sans déconner.
Eh oui.
Ah, en France?
Oui.
Ouais, non, il a raison. En fait, t'as mis un radiateur, dans ta véranda.
Il avait les lampes extérieures.
Ouais, il doit y avoir un. Pas du tout, et je bronzais, en plus.
Ouais, bah, écoute.
Ça te va?
21e journée de Liga, il y en a qui bronzent aussi, ce sont les Sévillans. 5-0, ils se sont dorés la pilule face à Levante. L'Atlético qui a tapé Getafe 2-0. Avec Griezmann, notamment, qui a été buteur. Leganés et Eibar ont fait match nul 2-2. Et Valence, ce soir, a battu Villarreal, 3-0. Tu veux commencer par quoi, Fredo?
Il est encore là, Simone?
Oui, il est là, bien sûr.
Par l'Atlético. Il y a vraiment un truc qui fait, j'allais dire un gros mot, qui m'excite. C'est vraiment l'Atlético, Juve Atlético. Parce que, il va falloir cravacher les Italiens. Il va falloir cravacher. Parce que cette équipe, elle a plein de blessés, et pourtant, elle est tellement sûre de lui, et il y a un joueur qui marche sur l'eau. De toute façon, depuis qu'il a décidé, que son avenir devait rester à Madrid.
C'est Grisou.
Aussi, bah, c'est Grisou, quoi. Il a marqué, sur les 8 derniers matchs, il a marqué 8 buts. Et 2 passes décisives. Je sais pas si vous avez vu sa frappe, là, qui met le premier but de l'Atlético. Une frappe d'une limpidité. Vous voyez, quand vous, ça, les fouteux, là, les deux, là, ils vont pouvoir me le dire. Quand t'es sûr de toi. Quand tu sais que tu tentes, ça rentre. Tu vois, c'est naturel. Tout ce que fait Griezmann est naturel et c'est super.
De toute façon, hein.
Mais vraiment, enfin, je veux dire,
d'autant que tu peux être sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que quand tu te sens tellement en confiance comme ça, tu peux avoir l'excès d'individualisme, c'est-à-dire que tu peux tenter des choses et parfois à outrance. Sauf que lui, il tente toujours, il est tout le temps dans le sens du jeu.
Bien
quand
sûr,
il faut faire la passe, il est collectif avec ses coéquipiers, et quand il faut prendre sa chance, il le fait toujours à bon escient.
Non, et puis il est tout ça mec heureux.
Tout ce qui fait, deux secondes Fred, tout ce qui fait Griezmann, je trouve ça moi normal parce que je parlais des anciens, que au niveau footballistique, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce rythme et cette dynamique impressionnante qu'ont les joueurs maintenant. Mais pour nous avant, un joueur de foot c'était d'abord ça. Tu ne pouvais pas après jouer. Mais de nos jours, après, tu as des joueurs qui puent le football, comme Onana, comme Griezmann, comme... je sais pas, t'en as plusieurs, comme Neymar, on va dire Messi, qui ont cette faculté toujours à être là, donner le ballon quand il faut, se reculer, faire le geste qu'il faut et tout. Et tu as après les autres qui ont des capacités physiques à éliminer avec la vitesse et tout, que avant, je veux dire, c'est pas ces joueurs-là qui avaient de l'importance. Ouais. C'était les joueurs comme Griezmann. Et ces joueurs-là sont capables de jouer dans tous les postes.
Ce qui est aussi fascinant, c'est sa faculté de se déplacer. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas un réel attaquant. Il jouait plus sur le côté du côté.
Sur le côté, il arrive comme ailier, hein. Ouais. Et d'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote que m'avait raconté Simeone. C'est-à-dire que Simeone, les dirigeants avaient payé à l'époque, il avait dû coûter 35 millions, ce qui était déjà beaucoup d'argent, pour un ailier. Et il arrive et il le fait jouer dans l'axe. Et les dirigeants me disent « Attends, mais tu me demandes un ailier, voilà, puis maintenant... » Et bah, parce qu'en travaillant avec Griezmann, il s'est rendu compte qu'il peut être beaucoup plus utile dans l'axe. De toute façon, il peut jouer partout, quoi. Ouais. Mais il a une grande liberté. De toute façon, ce qu'il aime, lui, c'est avoir un type devant et tourner autour. Voilà, et être libre derrière. Et c'est pourquoi là, Diego Costa est toujours blessé. Il sera sûrement pas là contre la Juve parce qu'il est opéré du pied. Ça sera sûrement, on va rigoler, Alvaro Morata, qui va signer dans les prochaines heures.
Ils vont vraiment le rechoper.
Ah oui, mais parce que...
Mais c'est marrant, parce qu'alors Sarri dit, en gros, le gars n'a pas de mental, et Simeone va le chercher, alors. Parce qu'on a vraiment l'impression, que c'est le dernier endroit
Simeone
où on l'imagine.
Est capable de déclencher.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et ben voilà.
C'est quoi, c'est un pari qui se donne aussi, Simeone, avec lui?
Non. C'est, en fait, c'est un pari, c'est-à-dire que, j'ai l'impression que Morata ne va pas venir pour jouer avec l'Atlético, il vient pour rendre service à Griezmann. C'est-à-dire que Griezmann, pour avoir le meilleur Griezmann, il faut qu'il y ait un mec devant. Comme il n'y a pas Diego Costa qui est blessé, comme Kalinic ne fait pas l'affaire et qui va sûrement partir dans les jours qui viennent. Voilà, il faut une référence offensive parce que c'est gâché, c'est donner la confiture au cochon que de mettre Griezmann tout seul en pointe.
Mais,
voilà.
Mais c'est vrai, Fred, si tu perds Kalinic, Martins, qui irait peut-être à Monaco,
qui jouait pas, ouais.
Ouais, qui jouait pas de façon.
Non, mais même s'il jouait pas, je veux dire, si t'as des blessés, t'es obligé de le faire jouer si tu joues contre Eibar ou là, non, là, tu récupères Morato. Mais Morata. Mais pour en revenir à Griezmann,
Morato.
Trois Morati. et un Morito. Et pour en revenir à Griezmann, je suis même pas sûr s'il a vraiment besoin d'un attaquant qui reste en pointe.
Ah si, vraiment.
Non, je sais, pour être encore meilleur. Mais il a cette faculté à s'adapter à tout.
J'en ai souvent parlé avec lui. Vraiment, là-dessus, j'en ai souvent parlé avec lui. Et les pires moments de l'Atlético et de Griezmann, c'était la saison dernière, dans la première partie de saison. D'ailleurs, où l'Atlético ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et je me souviens d'un match à Leganés où il était devant, perdu, etc. J'avais discuté avec lui. Et il m'a dit que lui, il se sentait pas bien comme ça, quoi. Voilà, et de ça, d'une autre discussion que j'avais eue après un match avec lui en février, en disant, mais ça va beaucoup mieux, etc. Je dis, ben, c'est depuis que Diego est là, depuis que Diego Costa est là. Et c'est vrai que Morata, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais, les caractéristiques de cet attaquant qui peut jouer, dos au but, qui fait un vrai point de référence,
ça aurait été mieux Giroud, non, Fred?
Ouais, enfin, mais bon, c'est pas moi qui choisis, hein,
tu veux rajouter, c'est pas les qualités,
non, je sais pas, mais je sais pas, on en a jamais parlé. Bah,
pour le coup, le rôle que décrit Fred, c'est Giroud. Ouais.
Oui, mais Morata, c'est un peu ça aussi, donc, voilà, donc c'est.
Tiens, on va accueillir Manouk, qui est supporter de l'Atlético et qui nous a appelé au 32-16. Salut Manouk.
Salut toute l'équipe.
Salut Manouk. Alors c'est vrai qu'il le disait, Fredo, il va être sympa ce huitième de finale face à la Juve. Alors Fred disait, ils vont devoir cravacher, hein, les Juventini, c'est réciproque aussi. Hein. Tu sais que tes colchoneros, ils vont devoir cravacher aussi, Manouk. Hein.
Ah bah ça c'est sûr, de toute façon dès qu'il y a eu le tirage, et avant même le tirage, depuis que Ronaldo il a signé à la Juve, tout le monde dit que la Juve c'est l'archi favori, on va dire. C'est sûr que ça va être un très gros match, tactiquement ça va être tendu, ça va pas être du 5-5, ça c'est sûr, mais j'y crois, honnêtement j'y crois, l'équipe elle a atteint une maturité assez extraordinaire. El Cholo, il arrive toujours à motiver ses gars année après année, bien qu'il leur demande toujours plus. Et c'est ça que je trouve assez dingue, c'est que chaque année, on se dit, allez, là, c'est la dernière année, les gars, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont partir. Et non, franchement, j'y crois. Si Morata, il arrive à faire le lieutenant de Griezmann, comme le disait Fred juste avant, honnêtement, ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est du 50-50, je pense.
Oui, puis il y a des joueurs quand même extraordinaires. Enfin, Lucas Hernandez, mais aujourd'hui, il a joué une mi-temps latéral, une mi-temps défenseur central, puisque Godin s'est blessé. Mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Mais je pense qu'en France, on n'a pas conscience du type qu'on a.
Vraiment. On prend la relève de Godin dans pas longtemps.
Ah, mais de toute façon, Simonet considère que Lucas est meilleur défenseur central, c'est-à-dire son vrai poste que latéral.
Donc les rumeurs Bayern, ça n'existe plus.
Alors, c'était plus que des rumeurs, c'était une vraie proposition.
Ils étaient prêts à
Bayern.
Mettre...
Ils étaient prêts. Bon, moi, ce que j'avais annoncé
dans l'after, le soir même.
Bah, le soir même, je peux le dire maintenant, parce que c'est passé, j'avais parlé à Lucas ce soir-là, c'est que, bon, si l'Atlético s'alignait, ça devait s'arranger. Voilà, c'est-à-dire que...
Je pense que Simeone va tout faire.
C'est son salaire aussi, quoi. Une salaire et puis de conviction, c'est-à-dire qu'il aime bien, il est très heureux à Madrid lui aussi, et il y a un vrai projet. Après, Lucas Hernandez était quand même très flatté qu'un club comme le Bayern ne vienne le chercher, quoi. Enfin, ce jour, on peut comprendre.
Mais est-ce qu'il veut pas sentir vraiment que l'Atlético Madrid lui fasse sentir que c'est un joueur important, qu'ils veulent le garder?
Ben si, parce que d'ailleurs, son salaire va être plus que doublé, donc je pense que c'est la meilleure façon de montrer qu'on t'aime. Voilà, c'est comme ça.
Godin va partir à la fin de la saison, donc.
Voilà, mais c'est ça le truc aussi, c'est que voilà, c'est bien d'avoir Simonet là, parce qu'il a tout à fait raison. Il va partir à l'Inter. Il semblerait qu'il ait même passé déjà la visite médicale. Ce qui se passe, c'est que l'Atlético veut bien mettre plus d'argent sur la table pour garder un jeune joueur qui représente l'avenir comme Lucas Hernandez, mais ils vont pas le faire pour un joueur quand même qui est en fin de, qui est encore très bon mais qui arrive vers la fin, comme Godin. Voilà, donc s'il fallait faire un choix, Et le choix de les être fait, il a été fait pour conserver, mettre l'argent sur Lucas Hernandez, qui, quoi qu'il arrive, partira pas en janvier, et normalement, ça va s'arranger, pour qu'on double son salaire et qu'il reste de nombreuses années à Atlético.
Alors, Fredo, demain, il y a le Real Madrid et le Barça qui jouent. Alors, le Barça qui jouera à Gérone. Le Real qui sera à Barcelone pour jouer face à l'Espagnol également. Alors, le Real qui est quand même sous pression parce que l'Atlético a gagné, ils sont à 8 points devant. Et puis surtout, Séville a gagné 5-0, donc, face à Levante, ce soir, enfin, cet après-midi aussi. Et Séville, alors, à la différence de but, il passe devant le Real Madrid également. Grosse pression pour les Madrilènes hein, aussi. Hein.
Oui, parce que Solari voilà, a repris cette équipe, elle était 9e, donc c'est grimpé peu à peu les échelons dans le classement, donc rétrocéder s'il n'y a pas une victoire demain à au moins un point sur la pelouse de l'Espagnol à Cornellà del Prat, bah, ce serait un petit problème. Mais voilà, le Real, ça commence à bien jouer, quoi. C'est les deux, trois derniers matchs sont quand même vraiment très, très bien. Ça commence à fonctionner. On sent que la mode, tu sais, vraiment, il tourne comme ça, un bouton, puis c'est mode Ligue des Champions. C'est, ça s'approche, c'est le mois prochain, là. Donc ça y est, il commence à se mettre en marche. Et c'est vrai que cette équipe commence à vraiment bien fonctionner. Et que, une victoire demain sur la pelouse de l'Espagnol qui n'est pas l'équipe du début de saison qui était vraiment très bien, voilà, je pense que ça va passer. Et le Barça ne joue pas le match à Miami finalement, vous êtes au courant?
Ouais, c'est les fameux matchs qui devaient être localisés ouais. Là.
Bah, en fait, Javier Tebas, l'ami de tous, avait un projet qui était qui est très intelligent. C'était de faire jouer au moins un match de Liga aux États-Unis, à Miami en l'occurrence, où il y a quand même une très grosse communauté hispanique, pour promouvoir la Liga et attirer des sponsors vers les clubs espagnols dans le cadre de son obsession qui est la Première Ligue. Et il a raison. Lui considère que face au déluge d'argent qu'il y a en Première Ligue, qu'il faut que la Liga, pour continuer à être la meilleure Liga du monde, comme dit le correspondant d'une grande radio et d'une grande télé à Madrid, doit générer beaucoup plus d'argent. Sauf que voilà, ça n'a pas été possible d'un point de vue purement légal, pour une raison très simple, c'est que un Gérone-Barça qui se joue à Miami, c'est un match sur terrain neutre. Donc c'est une atteinte à la compétition, tout simplement. C'est-à-dire que le Barça n'aurait pas joué à l'extérieur. Ils n'auraient pas joué à Gérone. Et alors que Gérone, qui était en couple cette semaine contre le Real, et l'entraîneur de Gérone disait que lui, eux, ils avaient très envie de jouer à Miami parce que c'était très bon pour l'image du club. Mais que, voilà, après, on peut comprendre que les autorités du football, à commencer par la FIFA, n'ont pas trouvé ça, normal. Donc le match se déroulera bien à Gérone. Gérone, qui est une belle petite équipe, hein, qui avait fait tourner en coupe parce que pour leur match, c'est un derby puisque c'est Gérone, c'est en Catalogne. Contre le Barça et d'assurer le plus tôt possible son maintien en première division.
Il fait meilleur à Miami en plus à ce moment.
Oh, Gérone, c'est pas mal. Hein.
Oh, c'est quand même.
Ah, franchement. Ouais.
Gérone, c'est quoi. Pas là-bas que le frère de Guardiola. Bon, c'est le club qui est lié
si,
à City.
C'est pas la Guardiola.
Mais... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est lui qui est là-bas,
ouais.
Non?
Ouais, c'est lui, il est là-bas, il est dans plein de... Ouais, il est aussi dans le Real, hein, puisque il est l'agent de Brahim Diaz, la nouvelle recrue madrilène, quoi.
D'accord. Voilà,
ça commence à devenir un agent assez important.
Influent.
Pardon?
Influent.
Influent.
Influent, oui, non, il commence à bien se placer.
Ok, mon Fredo. Eh ben, merci, mon Fredo. Tu voulais rajouter un truc ou pas? Un petit mot sur Séville, peut-être, le 5-0.
Oui, voilà, hein. Voilà. Séville, quand même, alors, Séville perd à Bernabéu la semaine dernière, dimanche dernier. Là, ils battent le Barça en quart de finale aller de la Coupe 2-0. Et là, ils mettent une branlée à cette équipe de Levante, qui est pourtant une équipe qui est plutôt correcte cette saison. Franchement, hein, Séville, voilà, il sera là jusqu'au bout aussi. Et je pense que voilà, on a les quatre premiers de la Liga avec le Barça, Séville, le Real et l'Atlético.
On après, rappelle que derrière d'ailleurs c'est Alavés et Getafe hein, pour l'instant.
Voilà.
Même
voilà.
Si le Valence est en train de revenir, le Betis aussi.
Oui,
mais...
oui, ça commence. Bon, sincèrement pour l'Espagne, ce serait quand même mieux qu'en Ligue Europa l'année prochaine ce soit Betis et Valence que.
Moi, je serais content que ce soit Getafe. C'est mon frère qui entraîne là-bas.
Ouais, mais oui, c'est vrai ton sosie José Bordalas.
Oh là là, quel entraîneur. Voilà.
Getafe qui est quand même pas le club le plus sympa d'Espagne.
Merci mon Fredo.
Adios chicos.
Bonne nuit à
demain.
Ouais, à demain, bien sûr, à demain.
Ciao.
Ciao Simone, bonne soirée, bonne nuit, merci Ali, merci Ludo, merci Alban, merci Cyprien, merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer cette émission. Et puis à demain, bisous, ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.